En fin de compte, c'est cette expression dont on se sert pour dire l'altérité, le fait d'être autre. Toi se dit ata en hébreu. Voilà donc, en tout cas, pour l'araméen, c'est ce qui s'appelle Targum Sheva Mikra. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire en quel sens l'araméen se trouve être le véhicule du Lachon HaKodesh aussi. Et vous savez à quel point l'araméen joue un très grand rôle dans la liturgie traditionnelle juive. Mais l'araméen, c'est la langue de l'étude. C'est la langue de l'étude des textes révélés. Les textes sont révélés en Lachon HaKodesh qui est l'hébreu, mais l'étude se fait en araméen. Pourquoi ? C'est la seule langue qui soit suffisamment proche de l'hébreu, mais suffisamment distincte pour permettre l'étude. Parce que le langage de l'étude doit être distingué du langage du texte que l'on étudie, et je remarque de plus en plus en Israël à quel point cette espèce de don des langues, si vous voulez, qui est proverbial chez les juifs, en général chez les juifs russes, plus particulièrement d'ailleurs, c'est fantastique ce que les juifs russes peuvent être capables du don des langues, c'est effrayant, est nécessaire pour la compréhension même de la culture hébraïque elle-même. Un juif qui ne parlerait que l'hébreu, ça n'existe pas. Et s'il ne dispose pas, de toutes les façons, il parle aussi l'hébrite. Mais enfin, s'il ne dispose pas d'un araméen, c'est-à-dire, s'il ne dispose pas d'une langue culturelle qui lui permette de faire décalage avec les concepts véhiculés par le Lachon HaKodesh, alors on ne comprend pas. Pour étudier l'hébreu, il faut l'étudier en araméen. Et tout langage d'étude de l'hébreu devient un jargon plus ou moins araméen. Et c'est cela. Si c'était une langue dont les racines et dont la structure grammaticale étaient trop différentes de l'hébreu, ça dénaturerait ce que l'hébreu dit. Et si c'est, donc il est nécessaire que ce soit une langue très proche du point de vue des 70 langues. L'araméen est une parmi les 70 langues, si vous voulez. Mais comme l'arabe, le grec ou le latin, à d'autres degrés. Mais il faut que ce soit une langue distincte de l'hébreu, mais quand même suffisamment proche pour permettre à la fois la proximité sans risquer d'approximation trop fausse. Mais dans tous les cas, la Bible n'est pas donnée en araméen. Nous ne pouvons la comprendre que parce que nous étudions le Targum araméen. Mais la Bible n'est pas donnée en araméen. Je veux dire une chose assez énorme. On pourrait s'en expliquer. Lorsque vous étudiez surtout la manière dont le Targum d'Ankelov traduit les expressions d'apparition de la divinité de Dieu, chaque fois, comment il traduit la parole de Dieu ou la gloire de Dieu, vous voyez qu'il emploie des expressions qui ne sont pas exactement la traduction de l'hébreu. Mais c'est dans ces études-là, Maïmonide a beaucoup étudié ce problème. Mais si la Bible a été donnée en araméen, alors la religion de la Bible serait le christianisme et pas le judaïsme. Ça veut dire, tout se passe comme si le christianisme est une sorte de religion, de théologie de la Bible lue en araméen, ou entendue en araméen. En ce sens que l'araméen, inévitablement, hypostasie les niveaux de la révélation du Dieu unique. Elle personnalise les hypostases. En araméen, la parole de Dieu, ça devient quelqu'un de différent de Dieu. Voilà. En araméen, la gloire de Dieu, ça devient quelqu'un de différent de Dieu, dans la mentalité de l'araméen. Et tout se passe comme si la théologie chrétienne, ce serait le judaïsme pensé en araméen au lieu d'être pensé en hébreu. Enfin, je vous dis là des choses énormes qui feraient bondir les théologiens et les linguistes aussi. Mais enfin, il y a certainement là quelque chose à creuser. Il y a des règles, si vous voulez, de la grammaire hébraïque qui renvoient à une théologie un peu décalée. Telle qu'elle se trouverait être dans l'araméen. Au fond, le Dieu de chaque religion serait à la limite l'âme qui s'exprime dans la langue employée par la révélation considérée. Voilà, en tout cas pour l'araméen, qui tient une place très particulière dans les langues juives, puisque vous savez que par la suite des temps, il y a eu d'autres langues juives, le yiddish, les yiddish, les différents yiddish, le ladino, le français des yeshivot, c'est déjà un jargon. Comment ? Le judéo-arabe, bien sûr, j'allais m'oublier. Mais. Et les judéo-arabes, parce qu'il y a autant de judéo-arabes qu'il y a de quartiers dans chaque ville. Et en particulier, comme vous le savez, l'œuvre en judéo-arabe, en arabe d'ailleurs, c'est pas seulement du judéo-arabe, du Gaon Saadia, et qui continue encore à être récitée dans les synagogues parisiennes d'origine d'Afrique du Nord, en arabe, tous les jours de Shavuot, on lit le commentaire du Gaon Saadia sur les 10 commandements, en arabe, et d'ailleurs c'est chanté sur des mélodies arabes du temps, c'est très beau, mais chaque communauté a le sien, d'ailleurs. Et l'araméen a une place particulière dans les langues juives, parce que c'est le seul yiddish, si j'ose dire, qui a été parlé par tous les juifs simultanément. C'est un yiddish, l'araméen. C'est une langue juive, je n'ose pas dire populaire, mais une langue juive, qui était une langue d'ailleurs des érudits, qui c'est la langue de l'étude. Hein? C'est la langue rabbinique. Il y a différents araméens, comme vous pourrez le savoir d'autre part. Puisque cette langue, comme telle, en tant que dialecte, se cristallise à différentes époques, dans différents endroits, et à des allures différentes. C'est l'araméen du Talmud de Babylone, c'est pas le même que l'araméen du Talmud de Jérusalem, c'est pas le même que l'araméen des traductions chaldaïques de la Bible, c'est pas le même que l'araméen du Zohar, etc. Il y a presque un phénomène de jargon d'école qui apparaît. Mais voilà, c'est une langue juive qui a été parlée par tous les juifs à la fois, alors que depuis, eh bien, une partie des juifs parlait le judéo-allemand, pendant que les autres parlaient le judéo-espagnol ou le judéo-arabe. Il n'y a jamais eu, depuis le temps de l'araméen, une telle occurrence. Et c'est pourquoi l'araméen devient langue liturgique. La majeure partie de la liturgie kabbaliste est en araméen et pas en hébreu. Ensuite, le Torah Tmima que j'ai sous les yeux explique le commentaire que je vous ai cité en disant que les trois autres langues, le grec, le latin et l'arabe, sont finalement les langues de la famille d'Abraham. Puisque l'arabe devient la langue d'Ishmaël, le grec et le latin par Esav. Et il exprime de la manière suivante, c'est que il y a inévitablement, à un quelconque niveau que ce soit, possibilité d'exprimer de façon privilégiée ce que la sainteté a à dire à travers ces langues-là, les langues de la famille d'Abraham. Hein? Bien entendu, centralement, du point de vue de la cohérence biblique, il s'agit, le Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu. Mais à une certaine limite, si j'ose dire, on pourrait dire que la langue arabe peut kabbaliser, c'est un mot affreux, mais vous comprenez ce que je veux dire, qu'elle peut être traditionnelle, elle l'est d'ailleurs, le grec aussi, le latin aussi. Que ces traditions de la Kabbalah hébraïque se soient perdues en passant à travers ces langues, c'est un autre problème, mais qu'il y ait là véhicule efficace pour exprimer le langage de la sainteté, cela est expliqué dans le commentaire que je vous cite par ce fait qu'il s'agit de ces traces, de ces restes du Kodesh tels qu'elles se sont distribuées dans les autres dimensions de la famille d'Abraham. Et ce qui me frappe personnellement, c'est que c'est par privilège les langues de la diffusion du message biblique. Ce n'est pas par hasard qu'effectivement, aujourd'hui, comme vous le savez, la Bible est diffusée dans toutes les langues, mais enfin, ce n'est pas important. Là, vraiment, à travers les langages, par où vraiment le contenu de la Bible a passé, c'est par l'arabe à sa manière, à travers le Coran, par le grec dans la traduction grecque de la Bible, et par le latin dans la traduction latine de la Bible. Le reste, c'est les fioritures. Enfin, le reste, ça va en plus. Enfin, on a traduit la Bible dans tous les dialectes humains, ou presque. Enfin, c'est en plus. Vous comprenez donc comment est le problème ? C'est, et, au fond, nous disposons, d'après les définitions que je viens de citer, avec l'hébreu, en tant que la Shona Kodesh, de l'expression de la révélation du Kodesh lorsque Dieu parle à Israël, ou à travers l'identité d'Israël. Et c'est pourquoi nous arrivons là à un deuxième paradoxe qui me servira de conclusion, c'est que il ne faut pas croire que la définition de ce qui est Kadosh, tant du point de vue des textes que du point de vue des catégories du langage, et nous est donné de l'extérieur de la conscience hébraïque. C'est l'inverse. C'est la conscience hébraïque qui, elle, a déterminé ce qui était kadosh dans le révélé, dans ce qui a pu être révélé à travers toutes les consciences humaines. Dans les temps anciens, toutes les sociétés ont participé au phénomène de révélation. Je vous en donnerai une indication en passant. C'est le Sanhédrin, c'est le tribunal d'Israël qui décide, lorsqu'un prophète parle, quel contenu de sa prophétie sera Kitvé HaKodesh ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le peuple d'Israël, en fin de compte, au niveau de ses sages, qui décide, lorsque David dit quelque chose un jour, si c'est un poème ou un psaume. Ou lorsque, vous comprenez, nous ne savons pas ce qu'Ézéchiel disait lorsqu'il parlait à ses voisins. Ça, c'est pas Kitvé HaKodesh. Et pourtant, c'était sûrement des belles choses. Parce que quand Ézéchiel parle, même lorsqu'il parle à ses voisins, ça devait être quelque chose, comme discours. Mais voilà, on a décidé, ça, ces versets-là, ces textes-là, c'est kadosh, et pas. Le critère de qu'est-ce que c'est que et kadosh vient de l'identité de l'âme hébraïque. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est par exemple le problème des textes apocryphes. Hein? Plusieurs sectes, après la clôture du canon biblique, d'après la tradition juive, plusieurs sectes possédaient des livres de foi, possédaient des livres dits inspirés, mais que nous n'avons pas reconnu comme étant canonique, c'est-à-dire comme étant vraiment révélé. Par exemple, des livres comme Tobie, le livre de Tobie, ou le livre de Judith, ou le livre des Maccabées, ou le... ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dedans soit faux ou dangereux, c'est des livres de foi, c'est des livres de la sagesse humaine. Il y a des choses, importantes pour le patrimoine culturel de l'humanité, mais révélées, c'est autre chose. Kadosh, c'est autre chose. Et vous voyez donc que ce critère de ce qu'est le Kadosh est un critère anthropologique de l'identité de la famille d'Abraham. Et qu'il a suivi, suivant la cohérence biblique, le même critère de sélection de la Kedusha du peuple et de la Kedusha de la terre. Et voilà, grosso modo, les différentes remarques que je voulais vous rappeler concernant ce problème. La question qui va se poser à nous tout à l'heure avec le deuxième exposé, je vais essayer de la formuler du point de vue du premier exposé. N'y a-t-il pas danger que l'hébreu en tant que la Shana Kodesh ne soit plus connu, puisque maintenant de nouveau, l'hébreu étant devenu langue vivante, il y aurait compétition entre deux manières d'être de l'hébreu. Je vous rassure à l'avance, je n'ai pas encore écouté l'exposé de M. Sirat, mais je crois qu'on peut être rassuré. En tout cas, revenons au premier point. C'est intentionnellement que je ne vous ai pas donné l'exemple que je connais le mieux, qui montre que les règles de la grammaire hébraïque sont des règles pensées avant d'être des règles de linguistique purement et simplement, et que l'exemple du vav conversif, parce que je voudrais le réserver comme étude de base, d'illustration du moins, pour le séminaire que nous aurons en octobre, si Dieu veut, ensemble, et qui portera sur la tchouva, qui portera sur le repas. Nous verrons à ce moment-là, ouais, je vous donne quand même l'exemple du point de vue de l'illustration, nous verrons à ce moment-là que seul le type de conscience qui était capable de connaître cette règle de grammaire d'inversion du passé en futur et du futur en passé était capable aussi de la conduite du repentir. Donc apparemment ça n'a rien à voir, enfin c'est ça que nous aurons à étudier dans le séminaire prochain.
Bien. Je voudrais remercier Manitou pour sa leçon.
On pose les questions à la table ronde, on peut même dormir.
Voilà, tu l'as vu quand même.
Oui,
j'attends la table ronde.
Oui, il y a des
questions. Oui, il y a des questions. Avant d'aborder,
je serai éloigné de l'esprit.
Je vais m'exposer. Je voudrais simplement savoir si vous avez des éclaircissements ou des questions à poser concernant les thèmes abordés par Manitou. Nous réservons, si vous voulez bien, pour la seconde partie au moment de la table ronde, lorsqu'il y aura une étude peut-être beaucoup plus générale et qui récapitulera les différents enseignements de Manitou hier, de M. Souchna et de M. Kachan éventuellement. Mais si vous voulez, sur les questions précises, je crois que le débat pourrait rapidement s'ouvrir maintenant s'il y a lieu. Pour les questions donc d'ordre beaucoup plus général et beaucoup plus détaillé, nous aurons tout le temps nécessaire au moment de la table ronde. Monsieur,
vous en prie.
Vous nous avez dit qu'en quelque sorte, on pouvait à la limite considérer l'arabe comme langue traditionnelle. J'ai compris dans quel sens vous le disiez. Maintenant, pour un point de grammaire, si on essaye de dire cette simple phrase, une parole de roi en arabe classique, on dira Kalmatou Malikin. On conjugue le mot roi, on le met au génitif. Si on essaye de dire la même phrase en latin, on mettra le mot roi au génitif. Si on l'a dit en hébreu, il n'y a qu'une inflexion de davar qui devient dvar et ça devient dvar meler. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les latins, les arabes, même dans l'arabe classique, ne considèrent pas la personne comme invariable, ils font varier la personne, alors que l'hébreu, si j'ai bien compris, pour lui, la personne est l'escalée, elle reste bonne ou méchante, ou intelligente ou bête, elle est escalée, et davar devient dvar et dvar meler. La règle du génitif latin, en quelque sorte, serait inversée, n'est-ce pas, plus logique ou d'une logique plus stupéfiante?
Bien, écoutez, là, vous donnez un exemple, une illustration possible de ce dont nous avons parlé. Effectivement, l'articulation des règles grammaticales de ce point de vue-là renvoie à des conceptions, renvoie à des doctrines. Et par exemple, ici, ce serait le problème de la doctrine de la personne dont nous sommes en plein dans le sujet. Effectivement. Ce que je voulais dire, c'est ceci. C'est que, originellement, il semble que nos maîtres ont considéré qu'il n'y avait pas simplement cette dichotomie pure et simple. L'hébreu d'un côté, les langues des 70 nations des autres, de l'autre côté. qu'il y avait une sorte de première périphérie des langues comme l'arabe, le grec et le latin et l'araméen, où il y aurait, si vous voulez, quand même participation à cette capacité d'être véhicule de ce que, qui se révèle dans la révélation, c'est-à-dire la Kedusha. Et historiquement, ça nous frappe qu'effectivement, quoi que ce soit, du message de la Bible a passé par les autres dimensions de la famille d'Abraham et est devenu la révélation en arabe, la révélation en latin, la révélation en grec. C'est pas la nôtre, bien entendu. Nous gardons d'autres conceptions de la vérité, mais malgré tout, ça nous rend compte du fait qu'il y ait eu participation. Et on me pose très souvent la question, pratiquement à tous les cours, tant ici que qu'ailleurs d'ailleurs. Vous parlez toujours, en parlant des choses de la Bible, vous parlez de la diaspora chrétienne, vous parlez de la diaspora musulmane, vous parlez de l'islam et de la chrétienté, et les autres, les jaunes, les noirs, et les autres. Eh bien, là, il faudrait que je m'en explique une fois pour toutes, mais je comprends que cette question se pose toujours. Il faut se référer au récit de la Bible. Depuis le premier homme jusqu'à Noé, toute une gerbe, enfin un éventail de tentatives de manière d'être homme, de réaliser le projet du Créateur, ont eu lieu. C'était toutes des approximations qui ont échoué. Elles sont arrêtées au point de vue de l'histoire. Il n'y a pas les descendants de ces humanités-là. Mais c'était autant de virtualités qui se trouvaient dans le premier homme et qui ressurgissent de la virtualité même de Noar. Et à partir de Noar jusqu'au temps de la génération de Babel, nous voyons tout un ensemble de noms qui sont donnés aux différentes manières d'être homme que Noar a sorti de lui. Ce sont ces archétypes-là, ces prototypes-là, qui ont donné toutes les civilisations dont vous parlez. Et elles forment ce que nous nommons les 70 peuples devenus des centaines et des centaines, puisque les 70 sont des 70 de base. Hein? De la même manière qu'avec 22 lettres de l'alphabet, on fait des discours, de la même manière avec les 70 valences ethniques de base, on fait les hommes. Mais entre la multiplicité de cette diaspora humaine immense, qui est l'éclatement de l'unité de la civilisation de Babel, entre cette diaspora du multiple absolu, du haïn absolu, hein, et le principe d'unité qui est représenté par la Kedusha d'Israël, est apparu une sorte de famille qui est à la fois, qui représente à la fois, si vous voulez, nos limites extérieures et la compétition de l'extérieur vis-à-vis de nous. Je m'exprime de façon très vague, mais enfin, vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Ishmael, Esav, ce sont les limites extérieures d'Israël. Et ce sont donc le relais entre Israël et les 70 Goïm. Ce relais est devenu compétitif. Vous voyez, ce pont est devenu rival. C'est cela, au fond, la clé de notre histoire. Mais on a remarqué que les communautés juives escalitées, à travers la grande dispersion des juifs dans la dispersion humaine, les communautés juives escalitées ne se sont jamais maintenues que dans l'islam et dans la chrétienté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu une diaspora juive partout, mais les communautés juives se sont dissoutes là où il n'y avait pas cette écorce ou cet abri de l'église ou de la mosquée. L'église ou la mosquée était rivale de la synagogue, mais elles ont fini par servir de clipa, dans le sens de la fonction de la clipa, d'écorce du fruit, c'est-à-dire de protection. Mise en contact direct avec le paganisme ambiant, l'identité hébraïque se dissolvait. Il y a un très joli roman de je ne sais pas qui raconte l'histoire d'une famille juive en Chine. Oui, c'est Pivoine, je crois. C'est ça. Voilà, vous avez là un exemple, n'est-ce pas? Il y a... Pardon? Oui. Les bouddhistes. Les Bnei Israël. Écoutez, elles se sont maintenues complètement des judaïques. Complètement, vous comprenez, elles sont maintenues ethniquement, mais pas en tant que communauté. D'ailleurs, ce n'est pas des juifs, c'est des descendants de l'ancien royaume d'Israël. Ce n'est pas des descendants des judéens, c'est des descendants des 10 tribus. Il y avait des juifs hindous, c'est autre chose. Ce sont des hindous convertis au judaïsme et qui ont fait souche et qui ont fait communauté juive et qui ont été, si vous voulez, alimentés par des Anglais, par des Syriens, par tous les commerçants qui allaient dans. Juifs qui allaient là-bas, qui apportaient des gomaros avec eux. Mais c'est vrai, il y a eu une édition de la Gomara il y a 20 ans à Shanghai, par des Libanais qui habitaient là-bas. Et il y a une communauté syrienne, de juifs syriens à Tokyo. Il y a d'autre part, si vous voulez, des descendants des 10 tribus comme les Bnei Israël. Mais on remarque cela, que l'identité juive s'est toujours dissoute dans les paganismes. Toutes les tentatives de maintenir des communautés juives, par exemple en Amérique du Sud, avant l'arrivée des Espagnols. Hein, il y a eu. Quand les Espagnols sont arrivés, là-bas, ils ont trouvé, chez les Indiens, des hommes qui ressemblaient à des choses genre juives, etc. Ça, c'est toujours dissous. Je crois que c'est très important à voir. La Torah nous raconte, le récit de la Torah, c'est le gros plan de la famille d'Abraham, et Israël est le centre de la famille d'Abraham. Il y a des limites extérieures qui sont Ishmaël d'un côté et Esav de l'autre, c'est-à-dire le christianisme d'un côté, l'islam de l'autre. Première précision, d'ailleurs, philosophiquement, c'est très important. Vous savez que le mot Israël désigne notre identité. Elle est indéfinissable au niveau politico-sociologique. Nous le voyons souvent. Qui est juif, on n'arrive pas à définir. On sait vraiment. Mais on n'arrive pas à mettre ça en définition de sociologie romaine, en définition de législation romaine, si vous voulez. On n'arrive pas. Et pourtant, on sait très bien qu'un tel, oui, un tel, non. Et vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une immensité de problèmes de définition qui se greffent là-dessus. Philosophiquement, ça signifie qu'il s'agit de l'indéfinissable. Parce que c'est ce qui est en cours d'histoire. C'est le problème du premier homme. Le premier homme a été capable de nommer tous les animaux, c'est-à-dire toutes les manières d'être homme en lesquelles il ne s'est pas reconnu, alors il a pu les nommer. À lui, il n'a pas trouvé de nom, dit la Torah. Tout ce que l'homme a nommé, c'était ce qui était déjà devenu, alors on peut donner un nom. Ce qui est encore en devenir, on ne peut pas donner un nom. On ne peut nommer que sa propre ombre. Si je me définis, c'est que je ne suis plus. D'ailleurs, la définition est toujours à la troisième personne en hébreu. On définit lorsque c'est fini. On peut définir que lorsqu'on dit « il », « lui ». Mais on dit « lui », « il » lorsqu'on parle de l'autre qui n'est plus. Vous comprenez ? Lorsqu'on peut dire de quelqu'un « il », lorsqu'on peut parler de quelqu'un à la troisième personne, alors on peut le définir. Mais c'est qu'il n'est plus, là. « Haremot kedoshim ». On peut définir que son ombre, on peut définir que la trace, ce qui est encore en vie, ce qui est encore en durée, comme dirait Bergson, ne peut pas être nommé. Ça peut être connu, mais ça ne peut pas être nommé. C'est l'indéfinissable. Et finalement, les définitions d'Israël sont négatives. C'est Israël, c'est ce que n'est pas devenu Ishmaël et ce que n'est pas devenu Esav. Je vais vous raconter un midrash qu'il y a dans le. Je veux dire, Ishmaël et Esav, on peut définir. Israël, on ne peut pas définir. C'est la raison pour laquelle on se définit par rapport à Ishmaël ou par rapport à Esav. Je vais raconter un midrash qui va très loin. Je ne sais pas si vous l'avez cité une fois possible, il y a quelques années. Dans la parasha Shelach Lecha, il y a le midrash suivant qui dit les Rechaïm, les méchants, Rechaïm, Shmotehem Naïm, Maasehem Groim. C'est-à-dire les Rechaïm ont des beaux noms, mais leurs actes ne sont pas beaux. Et on donne entre autres deux exemples. Esav, Esaü, est défini par le midrash. Rosé, Retson, Rosav. Ce qui signifie celui qui accomplit la volonté de celui qui l'a fait, c'est-à-dire de son créateur. Esav. Celui qui l'a complètement fait. Esav, Rashi traduit Asoui. Celui qui est complètement fait. Alors on peut lui donner un nom. Oui. Le grec dira parfait. Mais cette perfection-là, c'est la perfection de la mort. Vous comprenez? C'est le complètement fait, c'est-à-dire le complètement mort. Le grec, enfin le latin. Perfectum en latin, ça veut dire complètement fait, ça veut dire fini, asoui. Alors c'est figé, une impasse. Mais il y a une louange, c'est un beau nom. Il a fait ce que Dieu voulait de lui. Mais il est fait, il a été fait. Et Ishmaël, Shomer El. Ishmaël est celui qui est capable d'écouter Dieu. Shomer El, c'est une louange extraordinaire. Ishmaël, Shomer El. Eh bien Israël se définit par Naase ben Ishma. Oui. Alors, Naase, on va apprendre de Esav, et Nishma, on va apprendre de Ishmaël. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais, c'est-à-dire, en quoi Esav est Racha? Parce qu'il a que le Naase. Et en quoi Ishmaël est Racha? C'est parce qu'il a que le Nishma. Si vous voulez, Ishmaël ne sait que écouter. Et il faut écouter Ishmaël quand Ishmaël écoute. Et écouter un Ismaélite faire la prière. Vous comprenez? Ça peut servir de modèle. Et bien, représentez-vous un chrétien prêt au sacrifice. Ça peut servir de modèle. Ne croyez pas que je plaisante. Hein? On n'a jamais trouvé l'équivalent chez les juifs. On n'est pas capable de faire cela des bonnes sœurs. Enfin, ne serait-ce que ça. Vous avez vu, vous, des assistantes sociales juives faire le travail des bonnes sœurs dans un hôpital? Enfin, faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'y ait pas de sainte chez nos sœurs. Enfin, quand même, est-ce qu'à l'idée d'eux et en tant que tel, il faut le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Esav se met à être Esav, alors il est Esav. Et quand Ishmael se met à être Ishmael, il est vraiment Ishmael. Et ça va très loin. Vous voyez, la diaspora juive s'est finalement différenciée chez Ishmael, c'est les Sfaradim, et chez Esav, c'est les Ashkenazim. Vous savez ça déjà. Ben, ça va de soi. Bon. Eh bien, il n'y a pas de doute que chez les Ashkenazim, on trouve une dominante dans le Naasé, et le Nishma, ça viendra. Et chez les Sfaradim, c'est un peu l'inverse. On trouve une dominante dans le Nishma, le Naasé, ça viendra. Vous voyez que ce sont les limites extérieures de la définition. Et ce Midrash est extraordinaire, parce que pile, il a repris la définition d'Israël selon la Torah pour rendre compte de ce problème. À propos de quoi je disais ça, parce qu'il me semble ne pas avoir fini de répondre à la question. C'était quelque chose.
La personne, les deux phrases dites en arabe classique et en latin, le Varmeler.
C'est ça.
En latin, Régis, c'est oui, le génitif, en arabe classique aussi,
c'est le génitif. Oui, c'est pourquoi je vous disais que entre donc le Lachon HaKodesh d'Israël et les 70 langages païens, il y a ce relais. Bien entendu, nous n'avons pas la même anthropologie, la même théologie, mais malgré tout, il y a proximité très importante, ce qui exprime d'ailleurs, ce qui explique du moins la rivalité. Il y a un autre exemple qui m'est venu à l'esprit quand vous avez cité le vôtre, c'est la manière de dire la possession, la manière de dire j'ai. En hébreu, on dit yesh li, il y a à moi. Et il y a tout un problème là. On ne dit pas j'ai, aveo. Aveo. Qui est d'ailleurs le verbe être en hébreu. Aveo, c'est certainement hevavhe, hein, dans le sens de l'avoir qui se transforme en être. Hein. Mais il y a aussi là toute une monographie à faire de ce point de vue. Pourquoi l'hébreu dit c'est la notion d'habitude. Hein. L'habitude, c'est le fait, il vient de aveo, c'est le fait de devenir. À partir d'un certain nombre de mécanismes qui ont été acquis. J'ai et je deviens. Bon, il y a effectivement toute une série d'études de ce point de vue-là, mais je crois que le problème central, c'est ce fait du verbe être. Lorsqu'on comprend le verbe être en hébreu, alors probablement on comprend la métaphysique absolue. De ça, Joël certainement nous parlera tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappé, qu'il n'y a pas de verbe hein, en hébreu. Pas de verbe. Bon.
Pardon, monsieur, il y a une chose qui n'est pas encore claire dans votre réponse, pour moi, une toute petite chose. Vous dites ce relais est devenu compétitif, ce pont est devenu rival. Mais ce pont ne plongeait pas dans les mêmes racines, alors, pour être devenu rival. Il n'avait pas respecté les racines.
C'est ça, c'est-à-dire, voilà. Nous avons l'habitude de dire de la façon suivante, le père était le même, la mère n'était pas la même. Bien.
Il y a une autre chose.
Oui.
Quand vous avez parlé du rapport entre les deux et les grecs, vous avez empêché de penser à la paracha de la mythologie, le fait qu'il y a un interdit aux prêtres dans le journal des églises, et un interdit aux églises, c'est que ça sera des prêtres. Et comme nous nous nommons en Afrique pour la ligne, en réalité, tout comme les églises, en
réalité. Ah, il y a 20. Non, ça va. Non, ça va pas jusqu'à là. Alors, comment peut-on rendre compte de ces langues? Il s'agit des 70 langues dont j'ai parlé tout à l'heure. Les langues originelles des sociétés de base qui ont donné les différentes civilisations, c'était des langues du sacré du paganisme. C'était les langues du sacré du paganisme. Moi, j'ai parlé du sacré tel qu'en parle la Bible, et j'y ai fait participer, si vous voulez, les quatre langues que j'ai citées. Effectivement, les langues originelles de chaque société humaine étaient une des manières d'être du langage unique du premier homme. Ils ont véhiculé le sacré païen. Bien. Eh bien, signe. Oui.
D'abord, il faut peut-être lui lancer la définition de l'intégrité. Et si tu le dis, c'est pas la même chose que le temps en tant que méthode, et toi en tant que faux régulière. Alors, on va pas qu'on puisse parler de la façon différenciée de tous les Grecs qui nous avaient autour. Parce qu'il y a une catégorie d'amnésie qui est la pensée sociale, la mise en pensée. Alors la chose aussi, c'est pas simplement le fait d'atteindre quelque chose, mais c'est le fait de se demander si ce que l'on prétend comme atteint est la vérité. Donc c'est différent. Alors l'exemple de tout à l'heure est parfait, c'est que si on veut étudier ce que véhicule la langue hébraïque, même dans une perspective hébraïque, il faut mettre en question ça, on y a un deuxième langage. Mais ça, c'est aussi la philosophie.
C'est de la de l'épistémologie.
Oui. Du point de vue de la recherche et de la réflexion, ça fait partie de la philosophie.
Bon. Donc pour cette première question, je voudrais dire, je répondrai dans le débat parce qu'il faudrait au moins un quart d'heure pour ça.
En fait, c'est une question de nuance.
Non, c'est une question de méthode, de fond.
La deuxième est plus importante. Ça concerne en fait de savoir finalement qu'est-ce que l'on désigne par Mahashava. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, toute la théologie juive et surtout la Maïmonide ont essayé d'insister sur le fait qu'effectivement, Dieu est Mahashava. Alors là, il faudrait faire un carré de l'histoire, c'est que c'est tout à fait exact de dire qu'effectivement, le problème de l'époque, c'est le problème du sujet et de la personne. Bah, mais s'il y a eu un effort, tel que l'effort de Maïmonide ou d'autres, c'est que précisément, il y a eu des abus. C'est-à-dire, à force de considérer Dieu comme une personne, on l'a considéré au fond comme quelqu'un qui était à notre disposition, c'est le problème de l'anthropomorphisme. Enfin, donc, le fait de considérer Dieu comme une personne peut aboutir à une sorte de dégénérescence de la pensée religieuse. De la même façon que le fait de définir Dieu comme une pensée peut aboutir à une sorte de dépersonnalisation de Dieu. Donc je crois qu'on ne peut pas, dans le détail, il faut tenir compte que le seul point qui nous permet de distinguer Dieu de l'homme et Dieu de la nature, c'est quand même la pensée. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Si Dieu n'est pas que la pensée, alors, c'est
tout ceci.
Dieu n'est pas. Dieu est Mahashava ou Dieu est Tefet. Bon, alors le risque, c'est la dépersonnalisation. Mais alors, qu'est-ce que j'ajoute concrètement à la Mahashava pour obtenir quelque chose qui n'est ni la nature, ni l'homme, mais qui est Dieu? Alors, je terminerai par le point suivant. C'est que, est-ce qu'on peut dire que Dieu est Mahashava? Car si je dis que Adam est Chayam David, et si Dieu est Chayam David, comment distinguer les deux? Eh bien, il y a une seule chose, c'est l'attribut de la pensée.
Oui, enfin, la deuxième question, je pense que je la relirai à la première. Il me semble que c'est la même préoccupation. Rien sur le point de la fin, et effectivement, la question est-ce qu'on peut dire de Dieu qu'il est Chayam David? Ben, c'est ce que dit le vocabulaire biblique du début jusqu'à la fin.
Et quand même, le problème reste, si Dieu n'est pas seulement Mahashava, c'est Mahashava plus quoi.
Bon, je vous donnerai une petite réponse provisoire, mais on reprendra tout ça dans la table ronde en détail, parce que c'est un problème très important. C'est le fait que l'indice infini peut s'ajouter au fait personne et pas seulement au fait pensée. On peut répondre très, ça c'est, comment dire, en passant, on peut répondre que c'est l'infini de la personne, mais pas l'infini de la pensée. C'est-à-dire que l'opposition impersonnelle-personnelle garde sa gravité. Tiens.